Je vous propose d'accueillir maintenant Cécile Diaz-Rufos qui va me rejoindre. On peut l'applaudir. Installez-vous. Ouais. Je vais vous donner ce micro, ça sera mieux pour moi. Alors, je vous dis un mot de Cécile Diaz-Rufos. Elle est psychologue de formation et coordinatrice de la plateforme d'accompagnement de répit, justement, des aidants et des accueils de jour pour le domaine de l'Acadène. Elle va vous parler du temps de répit pour les aidants. On l'écoute ensemble et après, vous pourrez lui poser vos questions, bien sûr.
Bonjour. Merci en tout cas à la Fondation à la Recherche Alzheimer de nous permettre de pouvoir échanger cet après-midi et pouvoir évoquer ensemble justement le fait de prendre du temps de répit en tant qu'aidant. Alors, je vais essayer de m'en sortir. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on parle de répit, c'est, voilà, si on s'en réfère à la définition, donc c'est l'arrêt d'une chose pénible, un temps pendant lequel on cesse d'être menacé par cette chose pénible, c'est un repos, une interruption dans une occupation absorbante ou contraignante. Alors, quand on parle de répit, c'est vrai que c'est un terme parfois qui est perçu négativement. Alors, la Haute Autorité de Santé ne va pas le changer, donc c'est à nous, face à ces choses qu'on ne peut pas changer, de les apprivoiser. Et donc, c'est vrai qu'il est parfois mal perçu parce que ça sous-entendrait que s'occuper d'un proche qu'on aime, eh bien, serait perçu comme un fardeau. Alors, le répit, toutefois, voilà, concerne aussi bien les effets bénéfiques qu'on peut ressentir quand on prend ce temps de repos que les dispositifs, justement, pour prendre cette pause. Alors, quand les aidants parlent, ou quand on parle de répit, c'est vrai que c'est perçu comme un sas de respiration pour reprendre souffle, un moment de soulagement, une pause dans ce quotidien d'accompagnement, un soutien aussi dans cette situation d'aidance qu'on vit au quotidien, un relais aussi possible pour faire face à certaines difficultés et limiter le risque d'épuisement. Voilà, comme en parlait tout à l'heure Madame Augusto.
Alors, justement...
Donc, un temps qui permet de se ressourcer, mais aussi qui aide la personne, et on en parlait tout à l'heure de la difficulté à se reconnaître en tant qu'aidant, eh bien, ça permet aussi justement de se reconnaître... Voilà, on est proche, on est enfant, on est conjoint, on est petit enfant, mais on assure ce rôle d'aidant.
Est-ce que le répit, c'est un droit pour les aidants ?
Alors, en effet, oui, il y a le droit au répit. Donc, en fait, il y a une loi en décembre 2015 qui a instauré ce droit au répit pour les proches aidants. D'autres stratégies nationales, mettent en priorité... Le fait de pouvoir soutenir les proches aidants. Donc là, la stratégie nationale qui est en cours donc pour la période 2023-2027, donc agir pour les aidants, a comme objectif de repérer davantage les aidants, de pouvoir les informer, de pouvoir aussi renforcer l'offre de répit et de soutenir justement les aidants tout au fil de leur accompagnement, avec des droits spécifiques. Alors, avec ce double objectif de dégager du temps pour l'aidant, pour qu'il puisse être auprès du proche aidé, et également, quand c'est un aidant qui est en activité professionnelle, de lui permettre de compenser une partie de la perte de revenus si justement il diminue ou s'il cesse son activité professionnelle pour être auprès de son proche aidant. Donc avec différentes aides, quand on parle de répit, il y a la possibilité de financer partiellement, et bien sûr, il n'y a pas de piste idéale, de financer des dispositifs de répit dans le cadre du plan d'aide de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le fait de pouvoir aussi rémunérer un des proches dans le cadre d'un plan d'aide, plutôt que de faire intervenir un tiers, une auxiliaire de vie, et bien que ça soit un des proches, donc un des enfants, parce que ce n'est pas possible pour le conjoint d'assurer ce rôle d'aide à domicile. Également, quand on est en activité professionnelle en tant qu'aidant, le fait de pouvoir solliciter un congé proche aidant, même s'il a une durée limitée, de pouvoir bénéficier de l'allocation journalière pour les proches aidants dans ce cadre-là. Et voilà, pour certains salariés également, la possibilité d'avoir un droit renforcé au télétravail. Et le temps en fait, qui a été consacré à ce rôle d'aidant peut être comptabilisé également pour le calcul de la retraite.
Est-ce que vous observez justement des freins pour certains aidants à y recourir à ce temps de répit?
Alors, ces freins sont en effet de deux ordres. Il y a le fait de ne pas savoir, on en parlait tout à l'heure, de ne pas savoir à quel interlocuteur s'adresser, justement. Alors, il existe différents interlocuteurs auxquels, justement, en tant qu'aidant, on peut s'adresser. Alors, j'en ai noté quelques-uns ici. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais en effet, quand on accompagne un proche âgé, on peut s'adresser au CCAS de notre commune. Au niveau de Toulouse, il y a le point info senior. Il y a l'interlocutrice de la Maison des Solidarités quand notre proche bénéficie d'un plan d'aide. Il y a également les professionnels médicaux, paramédicaux. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Thierry Voisin, justement, de pouvoir aussi être informé par le neurologue, par le gériatre, par le médecin traitant, parfois par l'infirmière ou par différents professionnels, et également, bien sûr, les plateformes des aidants qui sont, quel que soit le territoire, là, c'est sûr, on est à Toulouse, mais les plateformes d'accompagnement et de répit des aidants sont déployées au niveau national, en fait. Donc il y a d'autres freins, parfois donc ce manque de connaissance des différents dispositifs de répit, et puis parfois parce qu'ils ne semblent pas adaptés à nos attentes en tant qu'aidants, aux capacités de notre proche, parce que parfois il est aussi compliqué, en fait, quand on est épuisé au quotidien en tant qu'aidant, eh bien, de consacrer de l'énergie à compléter des dossiers, à faire ces démarches administratives qui peuvent parfois sembler complexes et fastidieuses. Parfois, pour certains dispositifs de répit, par exemple l'accueil de jour, la halte répit, il y a parfois la difficulté du transport aussi, quand il n'est pas organisé, et bien sûr aussi un frein financier, puisque pour certains dispositifs de répit, il y a un reste à charge qui reste important et qui peut être bloquant pour certains. Alors, au-delà de ces freins, il y a aussi, bien sûr, tous les freins qui peuvent être liés au ressenti des dents. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile de reconnaître et d'accepter ses besoins et ses limites en tant qu'aidant. C'est vrai, quand on accompagne un proche, eh bien, on aimerait tellement pouvoir avoir des ressources inépuisables. Mais voilà, notre condition humaine fait que ces limites, on les touche parfois. Certains aidants peuvent être en difficulté pour mobiliser des dispositifs de répit parce que, bien sûr, ils peuvent aussi ressentir une certaine culpabilité, avoir parfois l'impression que s'ils confient leurs proches, eh bien, c'est un petit peu comme s'ils l'abandonnaient alors qu'ils le sentent plus vulnérable. Avoir parfois aussi la crainte de la réaction de leurs proches aidés, de son jugement, du jugement de la famille, de l'entourage qui pourrait ne pas comprendre leur démarche et leurs besoins. D'autres freins aussi. Parfois, justement, la peur de perdre un petit peu ce contrôle sur tout un quotidien, justement, qui a été, et tout cet accompagnement, toute cette énergie déployée. Et donc, confier parfois son proche, eh bien, c'est lâcher prise. Et c'est une démarche qui est loin d'être simple. Et puis, pour certains dispositifs de répit, par exemple, je pense à l'hébergement temporaire, la crainte qu'expriment parfois les aidants, c'est la crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière, en disant, mais voilà, si je confie mon proche, s'il perd en autonomie, est-ce que le maintien à domicile, le retour à domicile va être possible? Est-ce que si mon proche va en hébergement temporaire, que je suspends toutes les aides qui viennent habituellement à domicile, eh bien, est-ce que les aides vont bien vouloir revenir au bout de ce séjour? Donc voilà, ça peut être des freins qui peuvent justement empêcher les aidants de faire la démarche. Et puis il y a aussi parfois la peur, et qu'on peut tout à fait comprendre et auquel on peut être sensible, la peur de la séparation, parce que en tant qu'aidant, quand notre quotidien est tourné autour de notre proche aidé 24 heures sur 24, eh bien, se retrouver seul à la maison soudainement, eh bien, ça peut être éprouvant. Et douloureux.
Alors, est-ce qu'on pourrait faire un point avec vous, Cécile, sur les différents types de répit qui existent?
Alors, il y a trois grandes familles de répit, et on va les évoquer juste après. Donc, il y a le répit qui peut être trouvé par un accompagnement en dehors du domicile de la personne aidée, le répit qui peut être trouvé par un accompagnement à domicile, et également le répit qui peut être trouvé à travers les activités de loisirs, d'expression, de bien-être et les vacances et les temps de détente.
Alors, on voit qu'il y a différentes possibilités, mais est-ce qu'il existe aussi des structures où confier son proche malade pour avoir un peu de répit?
Alors on va en évoquer quelques-unes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, en sachant que les aides, les dispositifs de répit qui peuvent être mobilisés, eh bien, voilà, ils sont divers. Certains peuvent être mobilisés à un moment du parcours de santé de notre proche, à un moment de notre parcours d'accompagnement. Ils peuvent être complémentaires, ce n'est pas de manière chronologique voilà, qu'on va solliciter l'un ou l'autre, en sachant que solliciter des aides de répit, c'est, voilà, ça demande parfois du temps. On l'avait évoqué tout à l'heure, hein, voilà, que ça demande de cheminer un petit peu pas à pas. Donc, pour en citer certains, donc, il y a les haltes répit, donc, qui sont des accompagnements en demi-journée pour les proches aidés, donc, qui vont être accueillis au sein d'un groupe pour participer à des activités avec cet objectif premier du répit de l'aidant, avec une participation qui peut être ponctuelle ou alors régulière. Différentes associations et municipalités en organisent.
Demi-journée. D'accord. Voilà.
Alors, il y a également l'accueil de jour, où là, c'est un accueil en journée. Donc, c'est une prise en charge qui est là régulière. Donc, une personne vient, par exemple, une ou deux journées par semaine, chaque semaine, voilà, pour participer à des activités qui vont solliciter ses capacités. Et avec le second objectif, que le répit puisse avoir, que l'aidant puisse avoir justement du répit pendant cette journée pour justement reprendre un petit peu souffle pour continuer à accompagner son proche durant les autres temps de la semaine. Alors il y a également l'hébergement temporaire en maison de retraite, donc là où la personne aidée peut être accueillie en maison de retraite pendant plusieurs jours. Alors la durée est variable en fonction des établissements, en fonction aussi des organisations institutionnelles et en fonction des établissements, la personne, en fonction de ses besoins, peut être accueillie en secteur ouvert ou en secteur qu'on dit protégé. Hein, voilà.
On en a parlé tout à l'heure, hein, de ce secteur protégé.
On a parlé tout à fait. Et il y a également, alors là c'est moins important au niveau de notre département, mais malgré tout il y a les possibilités que la personne aidée soit accueillie en famille d'accueil, que ce soit en journée ou pour des séjours temporaires. Mais au niveau de la Haute-Garonne, voilà, le nombre de familles d'accueil est plus réduit. Et là, c'est un accueil plus personnalisé, puisque l'agrément qui est donné par le conseil départemental aux familles accueillantes, donc c'est contrôlé, eh bien, les personnes peuvent être accueillies jusqu'à 3 personnes au domicile.
Et si je ne souhaite pas, en tant qu'aidant, que mon proche aille dans un établissement, est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Il y a en effet d'autres solutions qui sont plus tournées donc, sur le domicile, avec du relayage à domicile, donc avec le fait qu'un professionnel vienne au domicile auprès du proche aidé afin que le proche aidant puisse voilà, prendre un peu de temps pour lui. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours. Alors c'est organisé par différents services d'aide à la personne ou différentes associations sur le territoire. Bulder voilà, est assez implanté comme association pour le mettre en place. Et donc là, il y a un financement voilà, par les bénéficiaires et la possibilité de mobiliser certaines aides au financement. Il y a également alors, le temps libéré l'aidant, qui est un dispositif qui a été impulsé par les agences régionales de santé en 2020, durant la crise sanitaire, et qui est maintenant pérenne, qui est porté par la plateforme d'accompagnement et de répit, les plateformes d'accompagnement et de répit des aidants. Et donc c'est un dispositif alors, de relais, mais ponctuel, qui ne vient pas remplacer ce qui peut être mis en place à domicile, mais ponctuellement, une professionnelle peut venir auprès du proche aidé à domicile, avec les plateformes le déploient de manière assez semblable. Sur le territoire de Toulouse, c'est 8 interventions de 2h30 sur l'année et ça a le mérite d'être gratuit. Et il y a également voilà, les gardes de nuit qui peuvent être possibles, justement, que ce soit des nuits qui sont assez paisibles pour notre proche aidé ou plus agité avec des réveils plus fréquents. Il y a la possibilité voilà, de la présence d'un accompagnateur. Alors, par des services d'aide à la personne ou par des associations, par exemple Ernesti, avec des étudiants en médecine qui peuvent assurer ces nuits. Et là, c'est un financement par le bénéficiaire.
Alors, pour le proche aidant, le répit, c'est aussi du temps pour essayer de penser à autre chose, pour se détendre, pour prendre soin de soi. Est-ce qu'il existe là des dispositifs bien spécifiques ?
Alors en effet, quand on parle aussi de répit, il y a tous ces dispositifs. Alors, ils sont divers. Il y a le fait de pouvoir partager des moments agréables, des moments de détente justement avec son proche aidé, par-delà la maladie. Et c'est vraiment important, voilà, ces moments-là où justement c'est le bien-être ensemble, voilà, qui est privilégié. Alors, quand on parle de séjour vacances, il y a différents dispositifs, mais il y a aussi, voilà, il y a les séjours vacances qui sont organisés par France Alzheimer. Madame Arias pourra peut-être vous en parler tout à l'heure. Ils sont souvent très appréciés et les aidants, voilà, ont toujours des retours très positifs sur ces séjours. Il y a les activités bien-être pour les aidants qui sont proposées par de nombreuses associations et services d'aide à la personne. Voilà, que ce soit de la sophrologie, de la méditation, de l'activité physique. Et ces activités qui sont proposées sont souvent gratuites pour les aidants parce que justement, eh bien, comme c'est une préoccupation de certains organismes financeurs, la conférence des financeurs ou d'autres, caisses justement porte ces projets d'ateliers pour les aidants. Il y a également, voilà, les groupes de parole, on en a parlé tout à l'heure avec les cafés des aidants, ces temps d'échange qui sont organisés par des associations, voilà, France Alzheimer, les plateformes des aidants, différentes associations, pour permettre aux aidants justement de pouvoir rencontrer d'autres aidants, partager leur vécu, trouver aussi ce soutien mutuel et pouvoir cheminer un petit peu. Les aidants expriment combien justement ces échanges entre pairs, avec d'autres personnes qui vivent une situation proche, mais chaque situation est bien sûr unique, les aide à cheminer au fil du temps. Et par exemple, voilà, à France Alzheimer, c'est vrai que les groupes de parole aussi, voilà, sont menés par des aidantes, des anciennes aidantes qui peuvent justement partager ce par quoi aussi elles sont passées, ce qu'elles ont pu vivre, et ça peut justement aider les proches aidants qui sont, voilà, confrontés à des difficultés bien actuelles à ce moment-là. Il y a également le soutien psychologique. Alors, le soutien psychologique qui peut être trouvé, bien sûr, par des psychologues, mais certains dispositifs existent bien spécifiques pour les aidants. Donc, bien sûr, il y a l'écoute qu'ils peuvent trouver dans les plateformes d'accompagnement et de répit des aidants. Il y a également une ligne téléphonique qui a été mise en place par Maladie neurodégénérative Occitanie, donc avec la possibilité pour les aidants d'avoir un accompagnement psychologique. Alors, c'est lors d'entretiens téléphoniques avec des psychologues en soirée. Et également Mon Repère Aidant, qui est un dispositif qui permet aussi, voilà, du soutien psychologique lors d'entretiens téléphoniques.
Alors, peut-être une dernière question pour terminer. On le voit, il existe différents dispositifs de répit. De votre expérience, je suppose qu'ils peuvent être d'un grand soutien pour les aidants.
Alors, en effet, c'est vrai que... voilà, de notre expérience dans l'accompagnement, on en perçoit les bénéfices et les aidants qui les ont mis en place peuvent aussi en exprimer certains bénéfices auprès d'autres personnes qui ressentent encore certaines réticences à le mettre en place. Donc, que ça soit des bénéfices pour l'aidant, le fait justement d'avoir pu prévenir un petit peu l'épuisement, comme le disait le docteur Voisin, voilà, quand ils sentent qu'ils approchent un petit peu, voilà, de pouvoir les mettre en place, de pouvoir les anticiper et de ne pas attendre justement d'être au pied du ravin, de veiller aussi à préserver sa santé mentale et physique, de pouvoir justement aussi consacrer du temps à leur vie sociale, familiale, qui est parfois mise entre parenthèses, de pouvoir aussi maintenir et conserver un certain équilibre personnel pour pouvoir justement continuer à être aimant tout en étant aidant. Pour l'aider aussi, voilà, lorsque les personnes participent dans des dispositifs tels que Accueil de jour, Halte Répit, on voit combien le lien social peut être aussi très porteur,
très important
pour eux. Oui. Et en effet, ça peut aussi les aider justement à se familiariser un petit peu à la collectivité. Voilà, pour justement pouvoir tout doucement trouver un petit peu d'apaisement lorsqu'ils sont en présence d'une autre personne que leur proche aidant. Voilà, que le proche aidant ne soit pas le seul repère rassurant pour eux dans le quotidien. Ça permet justement de se dire, ben, voilà, mon proche, je sais qu'il peut se sentir il peut se sentir serein, même quand il n'est pas
avec
à
moi.
La maison avec moi. Et bien sûr, voilà, il y a aussi des bénéfices pour la relation aidant-aidé, le fait de pouvoir partager des moments agréable ensemble et d'essayer de limiter les tensions au quotidien. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ces solutions de répit, elles ne s'inscrivent pas forcément dans une chronologie, elles sont à essayer de moduler pour répondre au mieux aux besoins des aidants et des proches aidés au fil du temps, au fil de l'avancée de la maladie.
Merci beaucoup. Oui.
Sur le fait que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le fruit d'un cheminement. Et pour terminer, je voulais vous partager cette citation que j'ai trouvée inspirante, qui est de Stefan Zweig, et qui dit que la pause, elle aussi, fait partie de la musique. Et je pense que le répit, le temps de pause, justement, eh bien, il fait aussi partie de l'accompagnement et il permet de le vivre au mieux.
Merci Cécile, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Cécile ? Oui ?
Merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux aidants, parce que souvent ils sont multiples, même si des fois ils peuvent être seuls. Quand on a un conflit d'opinion entre les proches, en fait, et qu'on n'est pas d'accord sur la façon de la meilleure façon d'aider la personne malade, comment du coup on peut un petit peu s'en sortir ? Est-ce qu'il y a des priorités aussi par rapport au lien de parenté et jusqu'à la mise sous tutelle de la personne aussi, ce sont des points qui n'ont pas été évoqués, si vous avez des choses à nous dire là-dessus. Merci.
Alors c'est vrai que chaque aidant vit la situation et l'avancée de la maladie chez son proche de manière toute personnelle, hein, en fonction de ce qu'était la relation. Alors parfois il est déjà arrivé en fait au niveau de la plateforme des aidants de pouvoir rencontrer par exemple plusieurs enfants quand ils n'avaient pas justement la même perception, ce qui est parfois très intéressant. Il y a différentes formations qui sont proposées, que ce soit de l'éducation thérapeutique, les formations, quand différents membres de la famille peuvent y participer et entendre les mêmes choses et poser les questions, ça peut les aider à avancer, de pouvoir reparler aussi des choses, et ça peut aider justement à trouver un certain accord pour avancer, mettre les choses en place. Mais c'est vrai que parfois ça va plutôt générer des tensions et des désaccords, et parfois voilà, en effet il y a des mesures à prendre plus juridiques. Oui.
Merci beaucoup, on vous remercie, on va l'applaudir pour la remercier.